Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
J'en ai marre, tu es tout le temps en train de me rabaisser, tu ne me dis jamais ce que tu penses, tu es égoïste, tu te la racontes, c'est vraiment insupportable. Qui n'a jamais au moins intérieurement lancé de telles phrases à la figure d'un proche, conjoint, ami ou membre de sa famille ? Parce qu'il est difficile d'être en vérité avec les autres sans être agressif, parce que partant de soi, on a trop souvent facilement tendance à accuser l'autre avec un magistral « tu » évidemment accusateur, existe une solution pacifique, une sorte de mode de résolution des conflits verbaux, la communication non violente, un outil au service de la paix dans les relations. Voilà, ce matin pour cette émission, la communication non violente, la paix dans les relations, avec quand même un point d'interrogation, parce qu'on va voir si c'est vraiment la solution miracle. Autour du plateau, un certain nombre de personnes. Anne Van Stappen, vous êtes auteur de Ne marche pas si tu peux danser, paru aux éditions Jouvence, et vous êtes au téléphone depuis la Belgique. Bonjour.
Bonjour.
Sébastien Dex, vous êtes psychopraticien, formateur et médiateur. Bonjour.
Bonjour.
Marie-Aude Binet, vous êtes conseillère conjugale, et sexologue et coach en prévention des risques professionnels. Bonjour.
Bonjour.
Et Christophe Bégenard, vous êtes consultant en informatique et en formation pour devenir psychopraticien. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer avec vous, Anne Van Stappen. Donc, vous êtes l'auteur d'un roman qui s'appelle « Ne marche pas si tu peux danser », paru aux éditions Jouvence, donc en 2009, si je ne me trompe pas, avec une édition revue et corrigée qui est parue en juin dernier. Voilà, alors vous avez des préfaces élogieuses d'un certain nombre de personnes, David Servan-Schreiber, il y a même Lara Fabian. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce roman, de ce qu'il dit et de la raison pour laquelle vous l'avez écrit ?
Alors, j'ai écrit ce roman parce que j'adore transmettre des clés qui contribuent à la beauté dans nos vies, tout en s'amusant. Donc, il y a une vraie histoire à suspense, et en même temps, dans les personnages, il y a l'héroïne Sophia qui se pose des questions sur comment faire pour ne pas trop maltraiter ses petits amis et pour être la plus pacifique possible au sein de son travail, qui est quand même assez challengeant, disons. Elle travaille dans la mode, elle gère des équipes, et voilà. Et donc, tout au cours de ce livre, Sophia va se poser la question de savoir comment je pourrais prendre soin de moi tout en respectant quand même l'autre, les autres, dans tout contexte.
Alors, David Servan-Schreiber compare votre livre à L'Alchimiste, donc livre de Paulo Coelho, si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Voilà, donc on va dire que c'est plutôt élogieux. Qu'est-ce qu'il y aurait de... Comment dire, est-ce que la communication non-violente, d'une certaine manière, c'est un peu la perle cachée et le secret d'alchimiste pour les relations interpersonnelles? Et vous, peut-être, comment...
En tout cas, moi, je le considère comme ça, parce que depuis 20 ans que je l'ai apprise et que je la pratique, cette sagesse de vie m'a vraiment, moi, transformée. Et puis, je vois qu'elle rallume plein de flammes dans le cœur de plein de gens qui ont à cœur de pouvoir bien s'entendre, de communiquer de façon humaniste et qui, souvent, n'ont pas les clés. Alors, la communication non-violente, je la trouve très, très subtile. Elle a été créée par Marshall Rosenberg il y a une quarantaine d'années environ maintenant. Et je la trouve très subtile dans ce sens que, si vous voulez, elle réunit à la fois 80% d'une attitude humaniste qui se passe avant les mots. Est-ce qu'avant les mots, je décide de voir l'autre comme un être humain tout en me préservant et en préservant mon humanité? Et ensuite, il y a 20% qui consiste en une compétence technique, une capacité d'avoir de la clarté sur 4 aspects. Comment vous vous sentez, à quoi vous aspirez et comment moi je me sens et à quoi j'aspire. Et cela s'orchestre sur tout un processus dont vous allez parler, je crois, un peu plus tard.
Alors justement, sur les racines, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Marshall Rosenberg, vous l'avez cité. Qui était ce Marshall Rosenberg? Comment est-ce qu'il a découvert la CNV ou l'a-t-il vulgarisé?
Alors, il l'a créé, en fait. Marshall Rosenberg était un juif américain et il a vécu, en fait, des contrastes dans sa vie. Il a vécu d'un côté, il était tabassé à l'école par des Noirs parce qu'il était juif et blanc. Et d'un autre côté, il a toujours vu sa grand-mère pleine d'amour, qui accueillait un peu tout le monde chez elle et qui avait toujours une place à table pour un pauvre, alors qu'ils étaient eux-mêmes d'une famille nombreuse et très pauvre. Et donc Marshall Rosenberg s'est demandé comment cela se fait-il que certains humains en tout contexte restent totalement pacifiques et aimants, et comment ça se fait que d'autres dérapent attaque, se protège par la violence. Alors, il s'est posé ces questions pendant toute sa vie. Pour la petite histoire, il a été, à un certain moment de sa vie, quand il était jeune, boxeur pour se défendre. Et puis, il est devenu docteur en psychologie. Et il a rencontré, au cours de ses études, Carl Rogers. Il a découvert l'écoute sans jugement. Et puis ensuite, il a créé son propre processus. Il était aussi ami de Aruna Gandhi, qui est le petit-fils de Gandhi. Et donc, il s'est beaucoup penché sur cette question, comment je peux être dans la compassion sans m'effacer, sans me nier, tout en gardant cette compassion pour moi. Et il a énormément lu, dont les principaux courants philosophiques et religieux, et c'est de là qu'a émergé le fondement de la communication non violente, qui est vraiment cette intention, est-ce que je peux voir l'autre comme un être humain tout en me respectant pleinement moi-même. Et de là a découlé ce processus, ces quatre étapes dont vous allez parler, je pense, dans un instant, cette danse entre l'autre et moi à équivalence.
Alors peut-être, là, avant que vous l'explicitiez, oui. Parce qu'évidemment on le détaillera davantage, on fera des exercices pratiques avec les praticiens qui sont autour du plateau après, mais vous pouvez quand même nous donner peut-être un petit peu la... Enfin, nous expliciter davantage ce concept. Est-ce que vous pouvez dire un mot de Carl Rogers, parce que vous l'avez cité
Alors, Carl Rogers était un des professeurs de Marshall Rosenberg, et il apprenait l'écoute sans jugement, c'est-à-dire plus précisément l'empathie. Alors l'empathie, c'est quoi? Avant tout, c'est est-ce que je peux ralentir, est-ce que je peux devenir présent à l'autre sans tout de suite réagir, contre-attaquer ou avoir des attentes. Pour Marshall Rosenberg d'ailleurs, comme pour Carl Rogers, l'empathie, c'est une profondeur dans la connexion avec l'autre qui s'installe avant les mots. Ensuite, les mots ne font que confirmer que je suis vraiment à l'écoute de l'autre, ou que peut-être je l'écoute juste pour obtenir quelque chose de lui. Voilà, alors, c'est tout ce que j'ai envie de dire sur Carl Rogers, en fait résumé.
Oui, d'accord, merci beaucoup. Vous avez cité aussi Gandhi. On imagine que voilà, la communication non violente, c'est donc s'inscrit dans une longue tradition de non-violence qui est illustrée particulièrement par Gandhi. Est-ce que, quand vous dites que ça a inspiré Marshall Rosenberg, qu'est-ce à dire?
Alors, ça l'a particulièrement intéressé dans ce courant philosophique de voir qu'il y a moyen de s'entendre avec l'autre sans nécessairement passer à la violence. Et ça l'a aussi, ce qui est quand même, si je puis dire, important à considérer et à pratiquer dans sa vie au quotidien, ce n'est pas si simple, hein. La non-violence, ça commence quand l'autre vous déteste ou vous attaque, hein. C'est là qu'on voit la vraie non-violence. Et ensuite, ça l'a beaucoup inspiré, et c'est pour ça qu'il a employé le mot en anglais « non-violent communication », dont d'aucuns en français, non-violence, trouvent ça un peu lourd, ou en tout cas, il y a une vingtaine d'années, c'était le cas. Maintenant, on sait beaucoup plus ce qu'il y a derrière, donc la communication non-violente, ce modèle déposé est très demandé. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à l'origine, ça vient du mot sanskrit « ahimsa », et le « alpha privatif » n'a pas cette notion de négation, mais de « qu'est-ce qu'il y a avant les blessures de vie, avant qu'il y ait eu des conflits, des guerres qu'on transmet ensuite de génération en génération. Et ce qu'il y a avant, c'est que pour moi, pour faire court, je dirais que quand le cœur d'un être humain est ouvert, il est non frappable quelque part. Et je crois que c'est ça que Gandhi a démontré dans tout son parcours et la façon dont il a pu libérer 300 millions d'Indiens.
Alors, pour revenir à votre roman, donc Sophia avance et elle découvre d'une certaine manière la communication non violente. Alors, quel effet ça a sur sa vie? Est-ce qu'il y a un avant et un après pour ce personnage?
Ah oui, assez rapidement, elle comprend la puissance de cette façon de voir l'autre non pas comme un ennemi, mais comme quelqu'un que peut-être j'ai du mal à comprendre. Et puis elle décide de se relier aux besoins. Les besoins sont les aspirations, sont les souhaits, les rêves. C'est ce qui fait que je me lève le matin, en gros. Et quand Sophia décide de se relier aux besoins de quiconque, les siens et ceux des autres, elle mesure que ça change énormément de choses. Et c'est un peu toute l'histoire du livre, où plutôt que de contre-attaquer avec un petit ami ou de créer le conflit, elle se dit « Ok, ici, il y a quelqu'un qui fait peut-être quelque chose qui ne me convient pas, mais certainement c'est un être humain avec des sentiments et avec des besoins, des aspirations. » Et en se reliant au vécu et aux aspirations de l'autre, elle réalise assez rapidement qu'elle désamorce beaucoup de conflits. Et donc, ça la motive. Alors, elle décide de se pencher davantage sur cette sagesse. Elle a notamment l'aide de Matteo. Matteo, c'est un peu le sage que moi j'aurais aimé connaître dans ma vie. Comme je n'en ai pas côtoyé, bien je me suis dit que voilà, j'allais l'inventer. Et visiblement, il plaît à beaucoup de lecteurs, Matteo. Il a beaucoup de sagesse, il a traversé des drames dans sa vie. Donc il a viré dans la colère et la violence parce qu'un camionneur saoul a créé un accident et a tué toute sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Et donc il a viré dans la colère, la violence, le désespoir. Et puis un jour il s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Et donc il s'est mis à réfléchir autrement. Et c'est lui qui transmet des outils de sagesse, de communication à Sofia.
Alors il y a d'autres, il y a des ouvrages comme ça qui ont eu un succès considérable hein, autour de la communication non violente. Donc les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg et puis cesser d'être gentil, soyez vrai, être avec voilà oui. De Thomas d'Azenbourg, être avec les autres en restant soi-même. C'est plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Alors la CNV c'est un succès considérable. Vous, je ne sais pas si vous êtes amené à voyager ou à faire des conférences sur le sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'ampleur du succès de la communication non violente?
Alors en fait, nous étions trois sur les bancs de l'école, trois Belges en 1994, comme vous dites chez vous. Et à ce moment-là, c'était assez confidentiel encore. Il y avait, je crois, une cinquantaine de formateurs certifiés dans le monde. Et Marshall Rosenberg, voilà, fonctionnait comme c'était. Et il n'avait qu'un rêve, c'était que le jour où il serait mort, quelque part dans chaque pays dans le monde, au moins, il y ait eu accès à cette sagesse et à cette technique au service, cette grammaticale au service de cette sagesse, de voir l'autre comme un humain et de ne jamais oublier que j'en suis un à part égale. Et donc, il y a 20 ans, c'était plutôt confidentiel, puis ça s'est développé, ça a pris une telle ampleur, tant avec les vidéos sur YouTube que les conférences, que les ateliers. Vous savez, ça ouvre le cœur des gens et ça leur donne des clés pour prendre du pouvoir sur sa vie, dans le sens d'un humanisme et d'une considération de tout un chacun. Alors évidemment, chaque être humain a soif de ça. Voilà, chaque être humain, je pense, veut devenir pleinement humain, mais il n'a pas reçu les clés. Moi, je ne me souviens pas qu'on m'ait une seule fois dans ma vie, pendant mes études, et elles ont été longues, puisque j'ai fait médecine, je suis devenue médecin, je ne me souviens jamais qu'on m'ait demandé « Comment vas-tu » et « Qu'est-ce qui pourrait te rendre la vie plus belle ?» Et la communication non violente, ce n'est que ça. Se poser ces questions pour l'autre et pour soi, plutôt que de se demander comment je peux mieux contrôler l'autre ou avoir du pouvoir ou dominer. Donc c'est, pour Marshall Rosenberg, il me disait souvent, j'ai été très proche de lui, je l'ai beaucoup assisté pendant une dizaine d'années dans de nombreux stages autour du monde, et il me disait souvent deux choses. Anne, je ne gagne pas si je gagne seule. Et la deuxième chose qu'il me disait, qui vraiment m'a beaucoup émue, c'est tant qu'un être humain aura faim sur cette terre, je ne serai pas rassasié.
Et donc cette formation aujourd'hui donc, a un succès considérable à la suite donc, de Marshall Rosenberg et vous venez d'en parler avec émotion. Est-ce qu'il y a une formation labellisée? Est-ce qu'il y a des gens, on va dire, certifiés CNV? Parce qu'on imagine qu'il doit y avoir comme partout aussi des charlatans qui essayent de répandre
alors,
à la CNV.
Il y a des formateurs certifiés par le Centre mondial pour la communication non violente, dont je suis depuis 20 ans, je suis certifiée par Marshall Rosenberg lui-même. Il y a des formateurs certifiés, et donc c'est important de s'y référer, via les associations pour la communication non violente, françaises, belges, etc., suisses, en tout cas en ce qui concerne l'Europe. Et je dois quand même ajouter qu'il y a énormément de monde qui ne sont pas certifiés, mais qui partagent de tout leur cœur quelque chose qui a fait la différence dans leur vie. Et donc je ne pense pas qu'il faille nécessairement être certifié par un label, quoique c'est une garantie d'avoir pleinement compris toutes les subtilités, les différenciations clés, comment on peut faire grandir en chaque être humain cette intention, oublier que c'est une technique parce que ce n'est pas une technique, la communication non violente. C'est vraiment un art de vivre qui sert, je dirais, il y a une chose que j'aime beaucoup dire, c'est un art de vivre qui sert à remoraliser dans deux sens. C'est-à-dire remoraliser dans le sens de redonner le moral, et je crois que beaucoup de gens en ont besoin, je pense aux jeunes par exemple, et aussi de redonner une morale. La communication non violente, c'est avant tout une histoire de valeurs nobles. Et ces valeurs nobles sont, en ce qui me concerne, je trouve principalement la bienveillance mutuelle, hein, l'authenticité, est-ce que je peux être vrai sans être blessant? Et finalement, il y a une troisième valeur que j'aime mentionner parce qu'elle change des vies, c'est la gratitude ou la reconnaissance ou disons l'émerveillement. la capacité de voir le beau, même quand quelqu'un fait quelque chose qui ne me plaît pas.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous parler, introduire cette émission donc, sur la communication non violente. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Ne marche pas si tu peux danser, paru aux éditions Jouvence. Merci beaucoup, on fait une première pause, et puis après avec nos praticiens en plateau, on va essayer de décortiquer, de comprendre de l'intérieur comment se vit ou se pratique la communication non violente.
Nos chaussures au placard et on prend la guitare, un CD de Marley. On laisse les enfants aux parents, on prendra tout notre temps. Je te garde pour moi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, fermer un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos deux portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, pose dans nos vies, c'est peut-être pas mal aussi. De Paris ou d'ailleurs, si tu me suis, on prendra le meilleur, tout est permis. Et si ça nous va bien, on ira encore plus loin. Destination ailleurs.
Présence.
Vivante Église. Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission ce matin, la communication non violente, la paix dans les relations, point d'interrogation. Au début de cette émission, nous étions avec Anne Van Stappen, donc auteur de Ne marche pas si tu peux danser, paru aux éditions Jouvence, une réédition donc de ce début de mois de juin, et donc qui fait partie, semble-t-il, des initiateurs de la communication non violente autour de quelques figures dont vous avez probablement entendu parler, comme Thomas d'Azincourt, auteur de Cessez d'être gentil, soyez vrai, ou de Marshall Rosenberg, le fondateur donc de la communication non violente. Les mots sont des fenêtres. Alors, nos praticiens déjà à la pause commençaient à réagir, mais avant de vous demander peut-être de réagir, détaillons ce que c'est que cette méthodologie. Alors moi je l'appelle comme ça parce que il y a plusieurs termes utilisés. Alors ça, déjà c'est symbolisé par un animal, il paraît, qui est la girafe. Alors pourquoi est-ce que c'est symbolisé par cet animal qui est la girafe, Sébastien Dex?
Alors la girafe parce qu'elle a un grand cœur. C'est réputé, enfin, biologiquement, c'est un des animaux qui a le plus gros cœur. Voilà. Et Rosenberg, en fait, l'a opposé à un autre animal, le chacal. Voilà, donc il a repéré dans notamment...
Qui a un petit cœur, lui ou...
Alors, le chacal, non, parce qu'il représente celui qui, pour se maintenir, va être agressif, méchant, défensif, accusateur. Alors, c'est pas gentil pour les chacals, à mon avis, mais bon, ils ont rien demandé. Et donc, il avait même créé pour animer, notamment ses conférences, des marionnettes. Une marionnette chacal et une marionnette girafe qui faisaient dialoguer entre eux, mais aussi vis-à-vis du public, pour montrer le langage girafe et le langage chacal.
Alors, donc, il y a des animaux, on va dire, il y a les girafes et les chacals. On va voir comment on passe du chacal à la girafe. Mais il y a aussi, donc, un résumé, c'est OSBD, donc observation, sentiment, besoin et demande. Alors, on va commencer par l'observation. Pourquoi faut-il commencer par l'observation et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, peut-être, vous pouvez résumer OSBD déjà, et puis oui. Après, on rentrera dans chacun des systèmes.
OSBD, en fait, c'est le processus de communication non violente. Ce sont quatre étapes qui ont été repérées par Rosenberg. Et la première est essentielle parce que l'observation a pour but de déjouer déjà tous les jugements. L'observation, là, c'est vraiment ce qu'on dit un peu dans le jargon au sens phénoménologique. C'est-à-dire qu'on essaye de décrire les faits de manière la plus objective possible. Voilà, pour essayer d'éviter le moindre jugement. Parce que si déjà... dans le constat que je fais de la situation, j'émets du jugement, l'autre, avec qui je suis peut-être en conflit, va se sentir attaqué. Et s'il est attaqué, il va se mettre en défense et donc il va attaquer à son tour et on rentre dans un rapport violent, conflictuel. Donc l'observation sans jugement, c'est quelque chose de clé et de très compliqué à faire finalement. C'est peut-être très simple, mais très compliqué. Et vraiment, il faut s'entraîner. Par exemple, prendre une photo, n'importe laquelle, et essayer de décrire le plus simplement sur ce qu'il y a sur cette photo sans émettre de valeur, sans émettre de jugement, même de critères esthétiques presque. C'est déjà un jugement. Pourquoi moi je trouve ça beau et l'autre va le trouver laid, par exemple. Donc essayer vraiment de rester le plus journaliste possible, c'est-à-dire vraiment au niveau de la description des faits.
Alors là, c'est un compliment aux journalistes, je ne sais pas s'il est très fondé, parce que j'ai l'impression qu'on y met souvent quand même ce qu'on y pense ou ce qu'on y ressent. En tout cas, il y a un préalable pour la communication non violente, c'est que c'est une espèce de communication, quoi. On essaie d'objectiver en fait la situation, d'objectiver les sentiments de l'un et de l'autre.
C'est-à-dire que pour faire passer par la suite les autres étapes, c'est-à-dire le ressenti, mes besoins et une demande, il faut partir d'une situation concrète.
Alors, si on prend un exemple, donc observer sans évaluer, si vous deviez prendre un exemple, ça serait quoi ?
Par exemple, tout simplement, la situation peut être présente ici. Nous sommes assis autour d'une table qui semble ronde, avec un certain nombre de micros. À ma gauche, j'ai Marie-Aude, à ma droite, Christophe, en face, Emmanuel. Il y a des papiers sur la table. Voilà, restez le plus possible concret. Je ne dis pas « Ah, aujourd'hui, Marie-Aude est bien habillée. » Si je dis ça, elle va peut-être croire que la veille, elle était mal habillée. Vous voyez, il y a déjà un jugement là-dedans, il y a une évaluation. Et c'est une intelligence, finalement, de décrire sans juger. Même Krishnamurti, qui est un des références philosophiques, on va dire, de Rosenberg.
Et qui était ? Qui était-ce ?
C'était un philosophe indien qui a écrit un très, très, très grand nombre d'ouvrages sur une sagesse orientale, on va dire. Place cette intelligence justement capable de décrire sans juger au niveau supérieur de l'intelligence humaine, par exemple.
Alors, espérons que ce n'est pas parce que c'est au niveau supérieur que ce n'est pas accessible à tout à chacun. Hein, rassurez-nous.
Il faut s'entraîner.
Voilà.
Il faut s'entraîner. C'est comme un instrument de musique, un petit peu. Moi, je crois que pour être virtuose, peut-être il faut des qualités naturelles. Mais tous, on peut jouer quand même quelque chose si on s'entraîne.
Alors, l'observation, après le sentiment, Marie-Aude Binet, c'est-à-dire, peut-être qu'on peut prendre l'exemple d'une situation plus conflictuelle que celle de ce matin, puisqu'à priori, autour de ce plateau, il n'y a pas forcément de conflit. Vous qui êtes conseillère conjugale, peut-être après vous pourrez nous donner un exemple qui a un rapport avec des conflits conjugaux. En tout cas, donc, deuxième étape, le sentiment.
Alors là, on va rentrer un peu plus dans le cadre de la personne, puisque elle va devoir parler d'elle, ce qui est déjà une étape extrêmement compliquée quand on ne l'a pas appris dans son éducation, dans sa famille, dans son environnement. Et du coup, c'est déjà de se dire, je parle de moi, je ne parle pas de l'autre, c'est pas tu, c'est je. C'est une première démarche qui n'est pas si simple que ça. Ensuite, il y a le fait de pouvoir identifier, reconnaître, accepter et nommer ses émotions ou ses sentiments. Et ça, ça prend aussi. Alors, il y a des personnes qui ont une certaine facilité de par leur personnalité ou leur éducation, et d'autres, pas du tout, sans être péjorative, hein, qui sont handicapées de ça. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aller apprendre, identifier ce qui se passe. Moi, j'ai des patients qui me disent « mais en fait, je ressens rien ». En fait, tout le monde ressent quelque chose. Simplement, y avoir accès n'est pas si simple. Donc, il y a déjà cet apprentissage-là. Et ensuite, de pouvoir du coup le nommer en évacuant les angoisses, les peurs, les freins, parce qu'il peut y avoir des non-dits, il peut y avoir des injonctions parentales où c'était ben non, on n'a pas le droit d'eux, il ne faut pas dire, etc. Et du coup, voilà, il y a toute une déconstruction d'un côté et construction de l'autre, un apprentissage à faire sur, je dirais, ces différentes, pour reprendre un peu l'image de la musique, ces différentes notes, hein, ces différentes couleurs aussi, partitions de notre gamme qui est immense au niveau émotionnel et sentimental.
Alors, juste une question là-dessus, ce n'est pas pour critiquer l'Église qui me fait vivre, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une culture, une mauvaise culture chrétienne, en fait, qui nous a habitués à la fois, enfin, le bon côté, à se donner, à se dépasser, mais à ne pas s'écouter? Est-ce que, entre guillemets, s'écouter, souvent, c'est, ou par le passé, c'était presque, on va dire, un péché, c'est-à-dire c'était se regarder?
Alors, il y a ce côté-là un petit peu de la culture, de la tradition judéo-chrétienne, en effet, où se parler de soi ou se regarder, ce serait être très égoïste. Or, au contraire, ça n'est pas être égoïste, c'est être dans le respect de soi. Et on ne peut être bienveillant vis-à-vis de l'autre que si on a de la bienveillance vis-à-vis de soi. Si je passe mon temps à me dire « t'es nul, ce que t'as fait, c'est pas encore bien, etc. », je ne pourrais pas reconnaître et accepter que l'autre lui-même peut faillir, peut avoir un échec, peut, etc. Donc d'abord, je me regarde. Et puis en même temps, c'est aussi accepter qu'on a des qualités, qu'on a des réussites. Donc ben, je suis fière de moi aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça, etc. Et du coup, je pourrais aussi accueillir ce que l'autre peut me donner à travers bah, ses qualités et puis ce qu'il a à m'apprendre. Donc en fait, c'est là qu'on va le voir au fur et à mesure, mais la communication non violente aide à grandir. Elle permet de grandir déjà soi-même et on accompagne l'autre aussi dans sa découverte de lui-même et du coup, il grandit aussi.
Sébastien Dex.
Oui, je voulais juste rajouter peut-être quelque chose par rapport aux sentiments. Un des outils qui m'a, moi, été très utile par rapport à la communication non violente, c'est justement qu'ils ont élaboré des registres de mots qui décrit les émotions ou les sentiments.
Et voilà. Encore faut-il avoir le vocabulaire en plus,
voilà,
pour
parce
nommer
que c'est ça,
ces
tout
émotions.
À fait, parce que Rosenberg approche la non-violence par le langage. Mais comme le dit Mariode, nous sommes, je pense, tous handicapés, notamment sur le lexique de nos émotions. Quand on demande spontanément à des gens de dire certains nombres d'émotions, ils vont en dire 4 ou 5, et encore, déjà, c'est pas mal. Alors qu'on se rend compte, par des listes qui ont été élaborées, qu'il y a des nuances. Dire « je suis triste » ou « je suis chagriné », c'est pas pareil. Et petit à petit, il y a un apprentissage d'essayer de mettre le mot qui correspond le plus à mon ressenti intérieur. Et d'avoir des registres comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation émotionnelle. Et on est très, très pauvre là-dedans.
Mario Guinet.
Et puis, il y a des émotions qu'on appelle les émotions raquettes, c'est-à-dire qu'on est très facilement en colère, mais en fait, ce n'est pas la colère que l'on ressent réellement. La colère va cacher, en fait, une très grande tristesse, par exemple. Et donc, c'est souvent une démarche que j'invite à faire. C'est finalement, qu'est-ce que vous voulez réellement dire? Qu'est-ce qui se passe réellement en vous? La colère, elle est très pratique. Hein. On l'utilise pour tout. On a peur, on est triste, on a honte, on est en colère. Mais en fait, derrière, réellement, je dirais, c'est la partie vraiment cachée de l'iceberg. Qu'est-ce qui se passe pour la personne? Et c'est important d'en prendre conscience parce qu'en fait, quand on a des retours négatifs, des retours de boomerang, comme je dis, de l'autre, parce que lui, il reçoit que de la colère. Donc, il ne peut pas décrypter ce qu'il y a derrière. Il ne peut pas le deviner. Il n'y a que la personne qui peut aller dans cette recherche. Et du coup, avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis d'elle-même, je dirais la première empathie, c'est vis-à-vis de soi. Et bien du coup, de pouvoir l'exprimer en disant, ben, là, je me sens triste, je suis déçue, j'ai honte, je suis dégoûtée. Voilà, de manière à ce que l'autre comprenne qu'on n'est pas contre lui. Il n'est pas un ennemi, c'est qu'il y a quelque chose qui déborde de soi et qu'on n'a pas su forcément canaliser. Et on apprend du coup progressivement avec la communication non violente à canaliser cette colère pour exprimer autrement ce qu'on ressent réellement.
Alors si vous deviez prendre une situation qui fait le lien avec, entre le O et le S, entre observation et sentiment, qu'est-ce que vous nous prendriez peut-être en déplaçant la situation ailleurs que dans ce studio ?
Alors je prends une situation traditionnelle de la vie familiale où la chambre parentale, la porte d'habitude est fermée. Et dans le couple, pour le mari c'est pas grave si elle est ouverte de temps en temps, pour la femme c'est plutôt embêtant. Donc au bout d'un moment, la femme est agacée, voilà, de voir la porte ouverte. Donc, elle va dire « J'ai vu la porte de la chambre ouverte ce matin. J'ai été agacée de la voir ouverte. » Tout simplement.
Voilà. Et pas « Tu as encore laissé la porte ouverte.
Exactement.
Tu m'aimes pas. Tu respectes pas notre intimité.
Tu m'écoutes pas.
Tu m'écoutes pas. Voilà, tu me délaisses, exactement. etc. etc. Très bien. Je rigole, mais je devrais pas. Excusez-moi. on continue. Donc, OSB. Alors, besoin derrière, troisième étape. Une fois qu'on a observé et qu'on a réussi à dire son sentiment, exprimer son besoin. Alors, toujours à vous, Mariotte Binet.
Alors, un besoin, qu'est-ce que c'est ? C'est vaste ça aussi. Alors il y a les besoins fondamentaux, on connaît nos besoins de reconnaissance, nos besoins de sécurité, nos besoins d'exister, nos besoins d'être aimé, de nous épanouir, hein, la pyramide de Maslow. Donc déjà ces besoins-là, de pouvoir les identifier. Et finalement c'est pareil, je reviens un peu à notre culture judéo-chrétienne, c'est un peu tabou. Et combien de femmes j'accompagne qui ont du mal à exprimer qu'elles ont besoin d'exister dans le regard de leur mari ? Et elles cumulent du coup des frustrations pendant des années, des années, des années, qui les éloignent en fait de leur conjoint. Parce qu'elles n'ont pas, elles ont été plus dans la posture du sacrifice. Je pense d'abord aux autres, à mes enfants, à mon conjoint, à mon travail, plus que de s'occuper d'elles. Et ça crée des blessures en fait au fur et à mesure et ça ressort en colère. Tu ne t'es pas occupé de moi, tu n'as jamais rien fait, tu ne m'as jamais écouté. Voilà, donc déjà de reconnaître, j'ai ce besoin d'exister dans le regard de mon conjoint. J'ai ce besoin d'être reconnue dans mon travail pour ce que je donne dans le cadre de mon équipe, etc. Et du coup, ces besoins, c'est aussi... Donc, c'est des besoins fondamentaux. Un besoin, on le reconnaît parce qu'en fait, on vit une insatisfaction. Alors, si autour de vous, les gens vous disent « t'as l'air toujours insatisfait », c'est pas agréable à recevoir, mais ça vaut le coup de se dire « ah, il y a peut-être des besoins que je n'écoute pas ». Je demande aux autres de les combler. Or, c'est à moi d'abord de chercher à répondre à mes besoins. Et du coup, on va le voir après, la demande ne sera pas une exigence. Parce que quand on devient exigeant, c'est qu'on attend tout de l'autre. Et en fait, l'autre n'est pas là pour nous combler.
Donc les besoins, encore faut-il arriver à les identifier. Ces besoins, c'est pareil.
Exactement.
Enfin, on peut pas tous aller passer
c'est un apprentissage.
Quelques séances dans vos cabinets respectifs.
C'est un apprentissage. Alors vous avez cité la littérature, il y a beaucoup de livres qui peuvent aider. Après, l'apprentissage seul n'est pas toujours facile. Et que, oui, on n'est pas obligé de faire une thérapie de 3 ans pour ça, mais ça peut être intéressant, soit au cours d'une formation, soit au cours d'un ou deux entretiens avec un thérapeute, d'apprendre à reconnaître ses besoins. Et notamment quand on fait une thérapie conjugale, de mieux comprendre quels sont les besoins de l'un et de l'autre, parce qu'ils sont différents et c'est naturel. Et du coup, que ça ne tombe pas en reproche, tu me demandes encore ça, mais comprendre qu'il y a quelque chose qui est important pour l'autre. Et là, je vais le respecter et non plus le juger.
Alors c'est pareil, si vous repreniez la même situation que vous avez décrite et que vous rajoutez le besoin, qu'est-ce que dit cette femme en plus ?
J'ai besoin que mon intimité soit respectée.
Donc si on reprend les trois étapes, observation, sentiment, besoin de cette femme, ça serait ?
Ce matin, j'ai vu que la porte de la chambre était ouverte, j'ai été agacée parce que j'ai besoin que mon intimité soit respectée.
D'accord. Dernière étape, la demande. Donc à vous, Sébastien Dex, pour conclure, peut-être, enfin, et puis après, évidemment, on reprendra tout ça. Il y a un aspect un peu méthodologique, mais c'est bien nécessaire. La demande, après, qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire, on formule une demande donc, qui n'est pas une exigence, qui est...
Oui, qui doit être aussi concrète. C'est-à-dire, c'est un peu le pendant du constat de l'observation. Il faut essayer de rester dans le même état d'esprit. Après avoir nourri avec les sentiments et les besoins non satisfaits, la plupart du temps, parce que sinon, souvent, on ne demande rien, c'est de rester le plus concret possible dans la demande. C'est-à-dire, ce n'est pas de demander à l'autre qu'il m'aime plus ou qu'il soit plus gentil. Ça, ce n'est pas du concret, ce n'est pas du palpable. Et souvent, c'est du reproche et de l'exigence ou de l'accusation déguisée. Donc, c'est apprendre vraiment à demander, par exemple, quand... si je reprends l'exemple de Marie-Aude, de cette femme qui voit la porte de la chambre ouverte, il faudrait vraiment qu'elle arrive à formuler une demande en rapport avec cette porte de cette chambre, à son conjoint par exemple, ou à son mari, ou à ses enfants. Il y a vraiment, et peut-être même y préciser, quand je suis à la maison, je voudrais vraiment que la porte reste fermée de telle heure à telle heure. Enfin, il ne faut pas avoir peur d'être très précis. Parce que plus je suis précis, finalement, plus je donne les moyens à l'autre de répondre à ma demande. Et si l'autre répond à ma demande, moi, je vais me sentir entendu et je vais me sentir pris en compte. Parce que si je demande une demande impossible, quelque part, je me mets la balle dans le pied dès le début. C'est-à-dire, si je rends l'autre incapable de répondre à ma demande, c'est moi aussi qui vais en pâtir parce que je vais être insatisfait parce que l'autre ne répond pas, et ça va de nouveau nourrir ce processus plutôt violent et conflictuel.
Donc il faut arriver à faire une demande qui soit neutre aussi, comme l'était l'observation.
Oui, et très.
Il ne faut pas qu'il y ait de sous-entendu dans la demande.
Non, essayez vraiment d'essayer d'être le plus concret possible, presque j'allais dire le plus comportemental possible, parce qu'un comportement, c'est visible.
Alors c'est pareil, si on va jusqu'au bout de l'exemple, du coup, qu'est-ce que dit cette femme, Marie-Aude Binet ?
Est-ce que, s'il te plaît, la porte pourrait être fermée après qu'on se soit levé le matin et toute la journée?
Voilà. Et donc, si on résume, du coup, elle dit quoi? Elle, à son mari, tout d'un coup, au lieu de claquer la porte ou de s'énerver,
elle lui fait une demande sur ce qui est important pour elle. Alors après, je vais quand même aller un peu plus loin. Le mari n'est pas obligé d'accéder à la demande non plus. Et ça, c'est là que c'est aussi important dans la communication non-violente, d'être dans le respect de la liberté de l'autre. Donc le mari peut très bien dire, j'ai compris que tu souhaites que ton intimité soit respectée. Là, on va être dans de la reformulation, de l'écoute active. Voilà, je vais faire un effort, il peut s'engager. Voilà. Mais il peut très bien dire, écoute, je ne vais pas y arriver. C'est pas une habitude que j'ai eue dans ma vie, etc. Et il va lui-même donner sa motivation. Et du coup, il y aura peut-être une négociation. Et là, on va aller un petit peu plus loin. Voilà.
Alors peut-être avant qu'on voit justement comment ça peut s'articuler, quels sont, on va dire, tous les bienfaits ou certaines limites. Si on reprend cette méthode, qu'est-ce qu'elle a, vous qui êtes praticien, psychopraticien, conseillère conjugale, sexologue et coach, qu'est-ce qu'elle a de si particulier ou de si révolutionnaire, ou en tout cas qui fait qu'elle a autant de succès, comment vous le formuleriez, Sébastien Dex?
Moi, je crois que ce qui est particulier dans la CNV, c'est qu'elle permet de travailler ce qu'on appelle l'assertivité.
C'est-à-dire ?
L'assertivité, c'est en même temps l'affirmation de soi et le respect de l'autre. Et la plupart des blessures des personnes, moi que j'accompagne par exemple en psychothérapie, ce sont des personnes soit qui ont reçu des abus d'affirmation d'autres personnes sur eux-mêmes, et donc qui ont été blessées. Et souvent, par ricochet, ce sont des personnes qui vont être effacées ou ne pas prendre le risque d'affirmer ce qu'ils sentent, pensent ou en quoi ils croient. Mais en même temps, donc, ça crée encore de la blessure chez eux. Blessure reçue et blessure qu'eux, ils entretiennent. Sauf qu'à un moment donné, ça s'accumule à l'intérieur d'eux. Et quand ils vont enfin dire quelque chose, ça va le dire de manière débordante, un peu chaotique. Et là, ils vont blesser l'autre. Et donc là, on reste toujours dans ce cercle un peu infernal. Et la CNV, la communication non violente, a vraiment cet aspect-là d'apporter au moins quelques outils de base, je dirais, presque un peu comme une grand-mère relationnelle, de repérer un peu des étapes qui... Or, certainement, ça va être maladroit au départ, parce que ça devient un art, mais au bout de quelques années de pratique, je dirais. Mais au moins... ça décharge et ça enlève des bombes à retardement dans la manière que moi j'ai d'exprimer quelque chose, mais aussi dans la manière que j'ai d'écouter l'autre. Ça, c'est important.
Alors, on va faire une... Vous voulez dire quelque chose, Marie-Aude Binet ?
Ça permet aussi de vivre dans une plus grande authenticité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'autre.
Alors, on va faire une deuxième pause musicale et puis après, on va voir comment notre témoin du jour, Christophe Bégenard, vous avez découvert cette méthode et c'est bien fait. Et puis, on abordera peut-être les questions ou les limites après votre témoignage.
« sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir, savoir aimer, sans rien attendre en retour, ni regard, ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé, mais savoir donner. Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. À ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, dont on ne l'attendait plus, se voir y croire, pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rides qui ternissent les miroirs. Savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, et s'en aller. Savoir souffrir, en silence sans murmure, ni défense, ni armure, souffrir à vouloir mourir.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, cette émission, la communication non violente, la paix dans les relations, point d'interrogation. Je vous rappelle, au début de cette émission, nous étions avec Anne Van Stappen, auteure, entre autres, de Ne marche pas si tu peux danser, aux éditions Jouvence. Et autour de la table, Sébastien Dex, qui est psychopraticien, formateur et médiateur, Marie-Aude Binet, conseillère conjugale, sexologue et coach en prévention des risques professionnels, et Christophe Bégenard, consultant en informatique et en formation pour devenir psychopraticien. Alors Christophe Bégenard, vous êtes le témoin de ce jour, voilà, et nous vous remercions, voilà, ce n'est pas la tâche la plus facile. Vous pouvez nous dire comment vous avez découvert la communication non violente peut-être, oui. Et quel était votre... peut-être votre souci ou votre problème, et comment cette technique ou cette méthodologie vous a aidé?
Oui, alors Emmanuel, je vais partager avec vous mon problème. Non, je vais reprendre effectivement au départ comment j'en suis arrivé à la CNV. Moi, j'étais dans une grande recherche spirituelle. J'avais fait plusieurs retraites ignatiennes. Je pratiquais la méditation chrétienne sur l'Évangile. Et pourtant, dans ma vie de famille, dans mon couple, quelque part, j'étais en échec. On se disputait avec ma femme. Je rentrais après une semaine de déplacement professionnel et non, je la retrouvais qui me balançait, par exemple, à la figure « Tu n'es jamais là ». Voilà, ce genre de situation, mais je disais, mais comment je suis jamais là? Je suis là maintenant, et puis je suis là demain, samedi, dimanche. Ah non, mais t'es jamais là. Voilà, et ce genre de situation, pour donner un exemple, montait rapidement en mayonnaise. Moi, j'essayais d'argumenter, et la tension montait. Ma femme est très, j'allais dire, très sanguine, un caractère très fort. Elle partait en claquant la porte, et de toute façon, elle criait plus fort que moi. Et puis moi, je voulais pas crier plus fort. Bon, j'ai essayé cette méthode aussi de crier plus fort.
On fera une autre émission là-dessus. Crier plus fort.
Donc, je me suis rendu compte qu'on s'en sortait pas, quoi. C'était pas possible. Et en plus, moi finalement, j'avais un phénomène un petit peu d'effondrement intérieur, comme je me sentais pas entendu par elle, un sentiment d'injustice en plus. Quand moi je bosse toute la semaine, je suis en déplacement, je rentre, je rentre de déplacement, je me fais encore engueuler, c'est pas possible, quoi. Mais je finissais par un petit peu par m'éteindre, m'enfermer dans une sorte de mutisme, de ne plus rien dire, quoi, parce que voilà. Donc non seulement j'étais pas là, et je finissais par m'enfermer dans le silence. J'arrivais plus à parler.
Donc la CNV, du coup, est arrivée.
Oui, la CNV est arrivée. Je me suis inscrit dans un stage. J'en ai suivi plusieurs. Et du coup, là, j'ai été saisi d'un grand enthousiasme parce que je me disais, bah, ça y est, je vais m'en sortir, j'ai compris. Donc, première chose, comme dit par exemple Marshall Rosenberg, on est formaté la plupart du temps dans un jeu, là, dans le jeu de qui a raison. Donc, on argumente, mais non, mais c'est moi qui ai raison, c'est moi. Donc, c'est un rapport de force dans le jugement. En plus, on voit que c'est un jugement qui est pas dur du tout sur le plan de l'observation des faits, comme on disait, parce que c'est la phrase, c'est tu n'es jamais là. Mais non, c'est ça serait éventuellement vrai si elle disait bah, depuis lundi 6h50 jusqu'à vendredi 18h, tu n'étais pas là. Voilà, là déjà c'est plus précis. Mais non, on n'en était pas là. On était dans un échange violent. Donc la CNV m'a permis déjà de mieux comprendre les mécanismes qui étaient en jeu, ce qu'il fallait déconstruire, donc ne plus être dans le jugement, ne plus être dans ce jeu de qui a raison, qui a tort, puisque, comme il dit Marshall, celui qui a tort, bah, ensuite il mérite la punition, la culpabilité, etc. Et celui qui a raison, bah, il a le mérite, il a la récompense, voilà. Aussi pour faire le parallèle avec la relation avec les enfants. Parce que là aussi, moi j'étais souvent, de par cette relation avec mon épouse, du coup, moi, ça générait frustration, aussi agressivité, violence. Et si, à côté de ça, mon fils venait petit ou quoi, j'avais tout de suite une réaction qui était assez violente, quoi. Et en plus, si ma femme me disait « Oui, ton fils, là, à l'école, il s'est pris un avertissement ou je sais pas quoi », paf, là, moi, je me déchargeais sur lui. Il prenait plus que ce qu'il aurait dû.
On imagine que 2-3 se reconnaissent dans votre témoignage. En tout cas, le fond de l'affaire, c'est que vous avez appris à communiquer différemment. Mmh. Est-ce que la condition sine qua non, c'est que chacun, dans ces cas-là, se forme? On imagine que votre épouse s'est formée aussi à la communication.
Mais c'est bien là le problème. C'est qu'elle, elle ne s'est pas formée. Et donc, je me suis retrouvé beaucoup le vivre, ça, de ceux qui se forment. Dans une espèce de situation de déséquilibre où il y en a un, donc en l'occurrence moi, qui est capable de décrypter, de savoir ce qui se passe dans ce moment de la relation, et elle n'a pas les clés, elle n'a pas voulu faire la démarche. Donc comment je fais? Parce qu'en plus, moi au début j'étais tout feu, tout flamme, j'avais appris ça OSB. Donc je lui dis, oui, alors quand tu me dis ça, moi je me sens en colère, mais moi j'ai besoin d'être reconnu dans tous les efforts que je fais au travail, alors je te demande un peu de respect. Non, mais c'est quoi là ce que tu me balances, ta technique que tu viens d'apprendre dans le dernier stage? Voilà, alors moi ça m'a encore cassé, parce que je lui dis, non, mais j'y arrive pas, voilà.
Sébastien Dex, est-ce que c'est une condition? Est-ce qu'il faut que les deux s'y mettent? Ou ça peut aussi, après les altercations du début, ça peut... Comment dire, ça peut s'imposer par contagion aussi, non là.
Oui, tout à fait. Moi, je crois que je suis assez optimiste sur ça. C'est que lorsque le membre d'un couple, d'une famille bouge, évolue, se développe personnellement, ça fait bouger tout le monde. Alors, est-ce que ça fait bouger suffisamment tout le monde pour que le problème de base soit réglé? C'est pas sûr. Mais de toute manière, comme nous sommes dans des interrelations, quand il y en a un qui bouge, l'autre bouge. Donc, obligatoirement, l'épouse de Christophe a bougé. Et je pense que s'il témoigne un peu plus, vous en saurez encore un peu plus.
Alors, allez-y, allez jusqu'au bout d'autres témoignages.
Oui, parce que ça, ce que je vous raconte, ça remonte à il y a 15 ans.
Alors, allez-y, faites-nous un résumé quand même, parce qu'il nous reste, il nous reste 4 minutes.
Ah oui, parce que moi, quand je suis parti...
Oui, il nous reste 4 minutes. Alors, donc, comment je peux dites-nous le résultat aujourd'hui, peut-être, et oui, quel chemin vous avez fait.
Quand même, pour résumer, si on regarde bien la méthode, c'est mes sentiments, mes besoins, et c'est moi qui fais une demande. Donc en fait, la méthode, elle est centrée sur soi. Donc la première chose, c'est une invitation à descendre à l'intérieur de soi. Et moi, à l'époque, je m'étais rendu compte que je ne ressentais rien, que je ne ressentais pas ni émotion, ni besoin. Donc j'ai eu un gros travail à faire. Et comme je disais, quand j'ai plaqué la technique, la méthode dans la relation avec ma femme, ça ne marchait pas. Et ça m'a amené à aller encore plus loin, donc à un travail sur moi-même. J'ai été plus maintenant vers Carl Rogers. Et maintenant, avec la CNV plus Carl Rogers, donc l'écoute active, l'empathie, l'authenticité, le non-jugement, le regard positif inconditionnel sur l'autre, maintenant je suis capable, moi en ayant fait ce travail, je suis connecté à mes émotions, à mes besoins, à mes ressentis, et je suis capable de décoder ce qui se passe chez ma femme. Donc quand elle me dit « t'es jamais là », bon, j'argumente plus, je sais que... qu'elle est en colère, etc. Et je cherche à voir ce qu'il y a derrière. Et donc derrière, c'est simplement un besoin que je passe du temps avec elle, que je l'écoute. Et maintenant, comme on disait, le changement dans la relation fait que l'autre change. Et sans jamais avoir expliqué ni la CNV, ni rien du tout, je la laisse entièrement libre. Et c'est moi qui change dans la relation. Et au bout de maintenant 3, 4, 5, 6 ans, d'écoute active plus tel que enseigné, intégré dans le courant rogérien humaniste, eh bien je vois les effets sur mon épouse. Donc dès qu'elle rentre le soir, moi je passe tout le dîner à l'écouter, elle vide tout son sac, tout son stress de la journée, voilà, et tous les jours. Et finalement maintenant elle claque plus les portes, elle est plus en colère parce qu'elle s'était chargée de... quand moi je me pointais le vendredi soir après une semaine de déplacement, en fait elle était chargée de toutes ces tensions de la semaine, de toutes les tensions du travail, avec les enfants, de courir partout. Et voilà, alors que quand je suis plus là... en écoutant une heure par jour, tous les jours, voire enfin le temps qu'il faut, hein. Parfois c'est plusieurs heures, plusieurs fois par jour, elle est beaucoup plus zen, plus cool, et elle m'engueule moins, elle me déverse moins sur moi sous forme de reproches. Et si c'est directement vis-à-vis de moi, je me suis rendu compte que ça touchait chez moi des blessures, que j'ai travaillé en thérapie, ce qui fait que je suis moins déstabilisé et que je suis capable de me centrer sur elle.
Alors, on manque de temps, hein, parce qu'on aurait aimé que vous nous détailliez davantage, peut-être après avoir ce descriptif, la manière dont vous y êtes pris, et puis peut-être évoquer certaines limites, certaines réserves quant à la communication non-violente. En tout cas, c'était, on va dire, une première découverte. Merci beaucoup à nos invités d'être venus nous parler de la communication non-violente. On rappelle le titre des ouvrages les plus connus, « Les mots sont des fenêtres » de Marshall Rosenberg et « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas d'Azincourt. Merci beaucoup à nos invités. On vous réinvitera, promis, et même ce témoin qui était en fait un grand témoin. Émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.